Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comment reconnaît-on un riche d'un pauvre ? Eh bien, c'est très simple. Le pauvre se précipite sur la moindre promotion de pâte à tartiner, incapable qu'il est de résister à l'attrait du sucre et du gras. Le riche lui fait sagement la queue en attendant qu'une table se libère dans le dernier 3 étoiles Michelin, au lieu de la revisite des légumes oubliés. Alors, bien entendu, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de caricatures. Mais l'actualité ne vient-elle pas justement de mettre ces caricatures en évidence à travers le traitement de deux événements liés à notre rapport à la nourriture. Ainsi, les soi-disant émeutes du Nutella dans les Intermarchés témoignent, dans le choix du vocabulaire, d'un regard assez condescendant, voire d'un mépris de classe sur l'alimentation populaire. A l'inverse, la sortie du guide Michelin ce lundi et le retour de l'émission Top Chef sur M6 symbolisent la captation de la gastronomie par les milieux branchés et aisés. Alors l'alimentation est un élément de distinction, voilà qui n'est pas tout à fait neuf, mais la façon dont nous l'utilisons désormais pour nous situer socialement et individuellement en dit long sur la société dans laquelle nous vivons. Alors l'assiette, nouveau terrain de la lutte des classes. Je ne sais pas si nos quatre invités auront reconnu le générique que l'on entend. On change un petit peu nos habitudes. C'est le générique de l'émission Top Chef, dont il va être question sans doute dans un court instant avec vous quatre. Je commence par vous, Léa Versini. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes cuisinière, ancienne chef étoilée. Vous avez tenu le restaurant Casa Olympe à Paris jusqu'en 2012. Ça n'était pas ce restaurant-là qui était étoilé, mais vous aviez choisi à un moment donné de changer un peu de parcours.
Le précédent. Oui.
Voilà, pour avoir peut-être notamment un peu moins de pression. On voit que c'est un élément, en tout cas, qui peut jouer aujourd'hui. On a le cas de Sébastien Bras qui vient demander à renoncer à ces 3 étoiles dans le nouveau guide Michelin, justement pour des questions de pression. Pour discuter avec vous ce soir, Pascal Wix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la rédactrice en chef du site 750 grammes qui propose un certain nombre de recettes. Vous tenez par ailleurs le blog C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes membre de l'Observatoire des cuisines populaires et vous avez signé en 2016 aux éditions Solar. Le dessert était presque parfait. Troisième invité, Thibaut de Saint-Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Vos travaux portent notamment sur la sociologie de l'alimentation. On vous doit le numéro de l'année sociologique consacré à ce sujet au PUF. C'était l'an dernier également chez L'Harmattan, les enjeux sociaux des cuisines du futur. Et puis quatrième invité, Jackie Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous tenez la rubrique culinaire à Libération. Je ne sais pas si on faut parler de journaliste culinaire, oui, ça vous va, journaliste gastronomique.
Oui, tout à fait.
Chroniqueur par ailleurs tous les samedis, le matin, sur France Culture, chez Caroline Brouet. C'est à quelle heure le samedi ?
8h45.
Et vous avez publié, alors entre autres, mais je vais citer votre ouvrage de 2016 aux éditions Carnet Nord, Voyage amoureux dans la cuisine des terroirs. Alors, je le disais, l'extrait qu'on vient d'entendre, le générique qu'on vient d'entendre, c'est celui de l'émission Top Chef, dont la 9e saison a été lancée la semaine dernière, avec toujours une très forte audience, 3 millions de téléspectateurs le soir même, c'est-à-dire la chaîne est arrivée en deuxième position. Est-ce que vous êtes surpris les uns et les autres de voir à quel point une émission de cuisine peut être à ce point populaire, Thibaut de Saint-Paul ?
Alors, oui et non. Oui, parce que le temps consacré à la cuisine en France a baissé massivement au cours des 20 dernières années. 18 minutes de moins en moyenne par jour, nous dit l'INSEE. Donc les Français cuisinent de moins en moins. Et en même temps, quand ils cuisinent, c'est une cuisine qui est plus centrée autour du loisir, autour d'une activité valorisante. Et ces émissions répondent à cette dynamique-là.
Olympe Versini, je ne sais pas si c'est une émission que vous regardez, vous, d'ailleurs.
Non, je dois dire que je l'ai regardée une ou deux fois. J'en parlerai difficilement. Elle montre pas exactement ce qu'est la cuisine. C'est malgré tout une émission au film. On regarde les gens sur un plateau. Je pense que les choses sont décidées avant. Elle n'est pas le reflet de chef en cuisine, exactement. Voilà. Au demeurant, je pense que c'est une émission qui plaît beaucoup, qui peut être relativement intéressante.
Qui peut peut-être donner des idées de recettes. Est-ce que ça donne des idées de recettes d'ailleurs, Pascal Wicks, vous qui êtes la rédactrice en chef de 750 grammes, c'est-à-dire qui sont des recettes plutôt accessibles. Or là, ce qui peut peut-être paraître étonnant, c'est que justement, c'est des choses qui sont des plats qui sont assez élaborés, sont déjà des chefs qui sont des chefs professionnels. Ce qui peut rendre aussi un petit peu étonnant le fait que ça soit à ce point populaire. C'est-à-dire, on regarde finalement des gens faire des plats dont on sera peut-être jamais en mesure de réaliser.
Effectivement, on est loin de la cuisine du quotidien, parce que de toute façon, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques le soir quand on rentre après le travail, c'est qu'est-ce que je vais manger. Maintenant, ça permet de montrer à un monde qu'avant, il y avait une grosse frontière, c'est-à-dire qu'on allait au restaurant, mais on ne voyait pas les chefs travailler. Alors même si c'est pas réel, ça ouvre un petit peu ce monde des restaurants, mais ça c'est mon opinion. Mais effectivement, ça ne change rien. À la cuisine du quotidien, à part que peut-être que ça change. Il y a des gens qui sont passionnés et qui, du coup, le week-end, vont avoir des projets pour faire tel ou tel plat un peu plus sophistiqué et acheter plus d'ustensiles.
Jacques Durand.
Je pense qu'on est devant une représentation de la cuisine, une mise en scène de la cuisine, une sorte de projection un peu idéalisée, avec beaucoup de techniques, avec des ingrédients qui sont souvent nombreux. C'est plus une représentation, c'est une sorte de projection. C'est à la fois assez mimétique dans le sens où on se dit, et si moi j'essayais, mais au fond, est-ce que moi je serais curieux de savoir si effectivement les téléspectateurs essaient de reproduire ces recettes, ou est-ce que au contraire ils restent dans cette espèce de vue un peu idéalisée de la cuisine, avec cette mise en scène un peu martiale, ce côté un peu table d'école. Ça renvoie quand même à tout le registre des émissions de télé-réalité, où on pousse, effectivement, on chante, où on fait d'autres choses, où on fait des combats contre la nature, on fait des émissions de survie. Tout ça repose en fait sur une sorte de mise en scène. Plus que, à mon avis, sur la réalité.
Alors, il y a une hypothèse qui pourrait expliquer cet attrait important pour une telle émission. On pourrait se dire, ça permet aussi de faire connaître des chefs qui, ensuite, vont avoir, parmi les téléspectateurs, de nombreux clients. Mais c'est quand même supposé que, justement, le restaurant, aujourd'hui, est un lieu qui est particulièrement fréquenté, qui a une fréquentation populaire. Est-ce que c'est le cas, Thibaut de Saint-Paul ?
Alors, en fait, ça dépend des restaurants. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une segmentation sociale très forte. En termes de restaurants, selon que vous allez dans des restaurants étoilés, le restaurant de votre quartier, des fast-food, et là on retrouve de grandes distinctions sociales. Et évidemment, les publics ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des contraintes économiques qui sont importantes. Il reste qu'on observe qu'à peu près un tiers de notre alimentation est prise en dehors du domicile aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez stable et qu'on va retrouver. Alors ça peut aller du sandwich pris dans les transports ou au travail à la fréquentation du restaurant. Pour la fréquentation du restaurant, c'est vraiment une dimension économique qui va primer. Si je peux ajouter juste un mot sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise en scène, ça me semble particulièrement vrai parce que ça rejoint des dimensions qui se développent dans notre alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du goût, de ce qu'on va manger, il y a cet enjeu de montrer ce que je vais manger par exemple la photo. C'est-à-dire je vais dans un restaurant, ce qui compte c'est autant ce que j'ai dans mon assiette que tout de suite la photo que je vais prendre pour la partager sur les réseaux sociaux. Et donc l'alimentation joue un rôle aussi dans la manière dont on va se montrer soi-même.
Est-ce que vous avez, vous, Olympe Versigny, été confronté à cette tendance, à cette mode qui consiste justement à prendre en photo les plats
Je le fais moi-même.
Vous le faites vous-même ?
Je le fais moi-même. Je fais même des photos de la cuisine que je fais pour moi. Et même étant seule, je fais toujours, tous les soirs, je fais la cuisine, ma cuisine. Et parfois, je fais des photos des plats.
Mais vous en faites quoi de ces photos ?
Je les mets sur les réseaux sociaux. Je suis très cliente des réseaux sociaux parce que c'est un lien, si vous voulez, c'est un lien, entre guillemets, c'est d'une carte postale. On reste en lien avec je parle d'amis proches, on reste en lien avec ses amis. Et comme je voyage beaucoup, j'aime bien raconter mes voyages, la cuisine que j'y découvre et après les sites, les lieux, l'hôtellerie, etc. Donc voilà, moi je suis très très cliente des réseaux sociaux.
Le fait d'utiliser quand même la nourriture pour raconter quelque chose de soi, alors certes ça a été permis par cet outil que sont les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelque chose d'assez récent, Pascal Wicks.
En fait, c'est une forme de partage quand c'est bien fait, comme Olympe le décrit. Ce qui a fait la force des blogs il y a 14 ans, c'est le fait de partager sa cuisine du quotidien, finalement. Maintenant, les réseaux sociaux ont pris le pas où on partage sa cuisine du quotidien, mais on partage aussi les restaurants où on va aller prendre une photo du pain qu'on va aller acheter à tel endroit qui est fait avec des blés anciens, etc. Donc, il y a le côté partage et il y a aussi le côté un peu show-off, enfin, le côté un peu...
Parce qu'il n'y a pas le côté un peu distinction, justement. C'est-à-dire, je montre ce que je mange, je montre les endroits où je vais, donc je montre aussi à quel milieu j'appartiens.
Oui, complètement. C'est un peu la dérive pour moi des. Enfin, la dérive, j'exagère un peu, mais la dérive des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au départ, on était dans le partage, et c'est vrai que maintenant. Selon les endroits où on va et on choisit de montrer, on dit ben voilà, j'appartiens à pas forcément à une catégorie sociale, mais par exemple j'appartiens à la catégorie des personnes qui font attention aux produits que j'achète et à ce que je mange.
Jacques Durand et ensuite Thibaut de Saint-Paul.
Je crois que pour moi, du moins, ça participe d'une sorte d'individualisation de la nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on peut se mettre tous autour d'une table. Je sais pas, peut-être que vous nous en direz plus sur la résistance du repas français et du repas pris en commun, mais sauf que le repas pris en commun aujourd'hui il se déroule plus entre guillemets avec la gamelle posée au milieu de la table. On voit davantage arriver chacun avec son goût pour un plat ou un autre et puis sa revendication de ses intolérances au gluten ou à autre chose, et tout ça participe à dire soit c'est moi qui l'a fait effectivement qui ai fait ce plat et je vous le montre, mais c'est moi qui mange ça et pas ça, quoi. Et je pense que ça, c'est pour moi, c'est une. On le voit comment les gens hésitent aujourd'hui, par exemple, quand ils achètent un sandwich dans un snack. Ils prennent un ton fou parce qu'on sent à quel point. Alors, est-ce que ça, c'est une angoisse? Est-ce que c'est une forme d'individualisme? Il y a quelque chose qui se joue en tout cas là-dedans.
Thibaut,
tout à fait. C'est le vrai facteur de changement que montrent l'ensemble des études qu'on a sur le sujet. C'est-à-dire que vous l'avez dit dans votre introduction, la distinction au travers de l'alimentation, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais avant, ça plaçait au sein d'un groupe. C'était du collectif. On mangeait tous la même chose à table. Aujourd'hui, on a un vrai mouvement massif d'individualisation. Il y a l'idée que ce que je mange, moi, ça dit quelque chose sur mon individu et mon identité. Et donc, que je donne à voir. Et on va beaucoup plus accepter que je fasse des choix individuels, que je décide de manger sans viande ou sans gluten, même si les autres mangeurs autour de la table vont manger des choses différentes. Et ça, cette individualisation de l'alimentation, et l'idée que je donne à voir mes valeurs, c'est quelque chose de vraiment nouveau en France.
Mais pour revenir à la question du restaurant, Thibaut de Saint-Paul, est-ce que ça veut dire que ça a obligé, par exemple, les restaurants à diversifier davantage leurs cartes pour pouvoir répondre aux désirs individuels? Parce que le principe du restaurant, c'est bien justement de pouvoir manger des choses différentes autour d'une même tablée, non?
Ça dépend. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est un mouvement plus global qui fait que se crée ce que nous on appelle des tribus alimentaires. Il y a l'idée qu'en termes d'identité, ne pas manger tel produit, au contraire manger tel type de produit, ça crée des liens très forts avec des gens autour. Je mange pas de gluten, par exemple. Et vous savez, par exemple, il y a des sites de rencontres qui rassemblent les gens qui mangent pas de gluten, qui veut dire que c'est essentiel pour eux dans la vie. Après, sur la restauration, il y en a qui se sont spécifiés, qui ont choisi des spécificités pour répondre à ce genre de valeurs ou de tribus, mais c'est pas le cas de tous.
Olympe Versini.
Alors je dirais qu'en fait, maintenant, le nouveau restaurant, c'est-à-dire qu'il n'est pas le restaurant gastronomique ou le restaurant, le fast-food, il y a cette nouvelle restauration que l'on voit beaucoup à Paris. Bon, je connais moins la province, c'est-à-dire que ce sont des restaurants qui peuvent être ouverts 3 jours par semaine, où il y a une personne qui a décidé qu'elle ferait la cuisine parce qu'elle aime ça, et qui en revanche va faire 2 plats. C'est-à-dire que le menu, vous avez une entrée, un plat, un dessert. Et ça fait Florès maintenant. Moi, j'habite un quartier où tous les jours, il y a un tout petit restaurant qui ouvre avec un cuisinier, avec des vins nature, parce qu'on part du naturel beaucoup aussi dans le vin, ce qui est nouveau, ça existe depuis 40 ans, mais disons qu'aujourd'hui, on a envie de naturel, de légumes. Alors les légumes, comme vous appelez ça, les légumes oubliés.
Les légumes oubliés,
les carottes noires, la patate noire.
Le pané, le topinambour,
etc.
Alors, il y avait peut-être des raisons de les oublier d'ailleurs.
Il y avait certaines raisons de les oublier. Ça peut être un produit, des produits qui font marcher un restaurant. C'est-à-dire que vous allez avoir dans un restaurant que ces légumes-là qui sont passés au four avec un filet d'huile et puis un petit morceau de poisson et voilà. Ça, c'est un restaurant maintenant.
Mais alors, vous qui faites partie de cet observatoire des cuisines populaires, Pascal Wicks, est-ce que ce que vient de décrire Olympe Versigny, ça témoigne a priori justement d'un retour peut-être d'une cuisine un peu plus populaire, ou bien est-ce qu'on est quand même dans des niches qui sont à destination d'un public bien précis, qui a peut-être quand même les moyens finalement de revenir à cette cuisine populaire?
Il y a plusieurs choses qu'on observe dans les tendances. Il y a à la fois un retour aux sources où on va avoir envie de remanger les plats traditionnels de la cuisine française. Après, il y a quand même un engouement pour tout ce qui est végétal, donc légumes, légumineux, céréales. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de restaurants où on fait par exemple des porridge salés avec des légumes. Donc en fait, il y a un joyeux mélange. En fait, c'est assez compliqué d'ailleurs parce qu'il y a des choses un peu branchées entre guillemets, il y a en même temps un retour aux sources, par exemple le pâté en croûte qui est super à la mode. Donc en fait c'est un peu un joyeux mélange, donc c'est bien parce que on se dit il y a une grosse ouverture. Et après, il y a des gens qui vont effectivement avoir l'esprit ouvert et fréquenter tous ces types de restaurants. Et il y a des gens qui vont fréquenter qu'un seul type de restaurant où il y aura une nourriture plus saine, végétale, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de récupération, ou en tout cas, je ne sais pas, de transfert de certains plats, par exemple, qui ont pu être extrêmement populaires à un moment donné et puis qui peuvent redevenir branchés, et inversement, je pense. Alors, vous citiez le cas du pâté en croûte. Alors, je ne savais pas, moi, que ça redevenait branché, par exemple, d'en faire. Mais j'avais l'exemple inverse, je ne sais pas ce que vous en penserez les uns et les autres, c'est le saumon fumé. Moi, il me semble me souvenir que quand j'étais jeune, le saumon fumé, c'était un marqueur quand même assez important de distinction sociale, c'est-à-dire n'importe qui ne pouvait pas en acheter. Or, aujourd'hui, dans les hypermarchés, à Noël, il y a du saumon fumé et accessible pour n'importe quelle bourse. Mais du coup, peut-être que chez les plus aisés, c'est quelque chose qui a fini par disparaître des assiettes, Jacques Durand.
J'aurais du mal à répondre à cette question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on peut quand même penser que tout ce qui est le retour de choses qui à un moment ont semblé passer de mode ou oubliées ou ringardes, comme le pâté croûte par exemple, pâté en croûte, on dit pâté croûte à Lyon, je crois.
Voilà.
Et effectivement, pourquoi il est revenu aussi en force? Et c'est parce qu'on a un championnat du monde du pâté croûte, comme on dit à Lyon, qui se déroule tous les ans à Tain-l'Hermitage et qui est de plus en plus couvert par les médias, qui fait l'objet maintenant de concours extrêmement sophistiqués avec des chefs venus du monde entier. Il y a des poulains de grands chefs. Il y a eu le poulain d'un chef comme ça, de La Meloise, qui est un restaurant qui est en Bourgogne, qui a gagné une année, c'est un japonais, ce concours. Donc c'est devenu quelque chose qui est redevenu aussi, mais grâce à tout ce travail que font les réseaux sociaux, les médias et tout ça. Et après, effectivement...
Mais qui est redevenu quoi? Redevenu à la mode ou redevenu populaire? Parce que ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
À la mode. Parce que... et en même temps, ça a donné aussi ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se met à faire des variations sur le pâté en croûte, qui sont absolument... c'est devenu un kaléidoscope, quoi, le pâté. On fait des choses, on ajoute du citron mariné, des olives, on est loin de la base, entre guillemets, du pâté en croûte version bouchère, très simple, le Richelieu, par exemple, ou d'autres sortes de pâté croûte. Et là, on voit que les gens s'en emparent. Ils ont envie de faire du pâté croûte chez eux.
Thibaut de Saint-Paul, si je veux épater mes amis lorsque je ferai mon prochain dîner chez moi et leur montrer quand même que j'ai une certaine, pas seulement une aisance financière, mais que culturellement, en tout cas, je suis situé, est-ce que si je leur propose un pâté croûte, il va falloir justement que j'ajoute quelques additifs comme les évoquait Jacques Durand pour montrer que, voilà, certes, je prends un plat traditionnel, mais je le revisite puisque ça fait partie de cette novlangue aussi qu'on entend beaucoup dans la cuisine aujourd'hui, dans l'alimentation?
Eh bien, je vais répondre en tant que sociologue et je vais dire que ça dépend un petit peu de vos amis et de où ils sont et qui ils sont. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, la distinction se joue au travers de ça, mais dans tous les univers. Si vous êtes dans un milieu très favorisé, effectivement, vous allez réinventer un plat avec quelque chose de nouveau, un ingrédient en plus, pour justement montrer ce savoir-faire en tant que connaisseur. Ce qu'on va rechercher dans les différents milieux sociaux, dans des plats, sont pas forcément la même chose en termes de représentation. Pour être très caricatural, en haut de la hiérarchie sociale, on aime des plats qu'on appellerait fins, avec peu dans l'assiette, mais bien choisis. Si vos amis sont plutôt de milieux moins favorisés où on grandit dans un milieu, je ne sais pas, plus rural, ce qu'on va rechercher, c'est quand même en avoir dans l'assiette. Et vous voyez, c'est très caricatural, mais il y a des tendances comme ça sur ce qu'on recherche et ce qu'on va valoriser. Qui a aussi des influences sur ce qu'on mange, potentiellement la santé, etc. Mais les représentations ne sont pas les mêmes.
Il y a même une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui a été publiée l'an dernier, qui faisait un certain nombre de distinctions en fonction des milieux sociaux et notamment du niveau d'études. Alors évidemment, c'est des raccourcis que je vais prendre. L'étude est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, pour la population qui avait un niveau d'études supérieur, il y avait le constat que mangeait beaucoup plus de fruits et de légumes, que pour ceux qui s'étaient arrêtés au collège, ils buvaient plus de soda, ils privilégiaient la viande et les pommes de terre. Est-ce que ça veut dire que, au-delà peut-être de la capacité financière, parce que finalement il y a des légumes qui ne coûtent pas plus cher que d'acheter de la pomme de terre, il y a aussi un rapport à la nourriture qui peut être différent selon le milieu auquel on appartient, Thibaut de Saint-Paul.
Tout à fait. Effectivement, on a des représentations des aliments qui sont différents et qui sont différents selon les milieux sociaux. Et il y a des aliments qui vont être valorisés, d'autres non, mais ça va très loin et ça peut être aussi des différences de valorisation entre hommes et entre femmes. Vous prenez par exemple un soda, selon qu'il est zéro ou light, il est construit comme plutôt masculin ou plutôt féminin avec un univers qui est autour, alors que dans les deux cas on est dans une boisson qui est à bulle. Et donc on projette sur les aliments des valeurs qui sont symboliques et qui rattachent à un univers masculin, féminin, tel groupe social, plutôt jeune, et on retrouve ça dans toute la société à des endroits différents.
Vous, je le disais, Olympe Versini, vous avez été une chef étoilée, vous avez ensuite à un moment donné choisi de faire un restaurant plus modeste. Est-ce que du coup, d'abord la population qui venait dans votre restaurant a changé, et est-ce que la nourriture que vous proposiez, le type de nourriture a changé aussi?
Alors il est évident qu'il y a eu évidemment une différence entre le restaurant étoilé. Pour la bonne raison, c'est que j'avais 15 personnes en cuisine et que dans le dernier restaurant que j'ai eu, je n'avais que 3 personnes en cuisine, plus moi, 4 personnes. Donc, on ne peut pas, le restaurant était plus petit, on ne peut pas faire la même cuisine.
Mais ça, c'est du côté de la cuisine, mais du côté de la salle, c'est-à-dire dans la clientèle.
Alors, dans la clientèle, j'ai eu de la chance parce que finalement, depuis mon premier restaurant, les gens m'ont suivi. Alors, ils m'ont parfois un petit peu abandonné au deuxième restaurant parce que c'était beaucoup plus cher. Donc, ça a joué. Mais en revanche, je les ai retrouvés dans le dernier restaurant. Je les ai retrouvés avec leurs enfants et même leurs petits-enfants. Et si vous voulez, parce que malgré tout, ils venaient manger chez Olympe. Ils avaient envie de me voir. Et ils avaient envie de manger la cuisine que je faisais, parce que je me suis jamais posé de questions sur la cuisine. J'ai toujours fait ma cuisine, celle que j'aimais, sans suivre les modes et tout. En revanche, quand j'ai fait le petit restaurant, j'ai mis, et je l'ai fait il y a 26 ans, maintenant 27 ans, des cocottes. Les cocottes sont redevenues à la mode. Et j'ai cherché dans toute la France des vieilles cocottes pour faire des plats plus bourgeois, et plus traditionnel.
Ah, c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les bistrots populaires.
C'est-à-dire, Ou qui veulent être populaires.
Ben, c'est justement la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui, par exemple, un restaurant qu'on pourrait appeler un restaurant populaire, Pascal Wix?
Ah bon, vous êtes dur avec moi. C'est une question super difficile.
Vous allez voir, tout le monde va y passer.
C'est une question super difficile. Le problème, c'est que...
Non, mais est-ce que c'est un restaurant qui se dit populaire? C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir, par exemple, je sais pas moi, des nappes à carreaux, des verres Duralex, et puis des tables en bois pour être populaire?
C'est un peu ce que je voulais dire. En fait, pour moi, le gros problème, c'est que il faudrait que ça soit vraiment populaire et authentique, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui font semblant, et là, c'est terrible.
Mais ça serait quoi, authentique, du coup?
Pour moi, authentique, ça serait des plats à la limite comme on fait à la maison, en fait, et sans décorum, et puis loin de tout ce qui est tendance. Ce que les gens ont envie de manger, un peu de la nourriture réconfortante, authentique, et sans tricherie, avec des bons produits. Et voilà,
c'est Jacques Durand. Un restaurant populaire, c'est surtout un restaurant qui ne fait pas de mise en scène du populaire, parce qu'il n'y a rien de pire que les restaurants qui singent
en nous faisant croire qu'on trouve encore du bois et du charbon et qu'on est, voilà, c'est terrifiant ça. Un restaurant populaire, c'est un restaurant qui, pour moi, a un menu abordable. Comme on en trouve encore à Paris, c'est peut-être compliqué, mais vous avez des restaurants, oui, en province où pour le midi on peut manger pour 11,90 €. Il y a entrée, plat, dessert. Moi, ce que j'appelle des plats de ménage, c'est-à-dire de la cuisine familiale avec des choses simples. Il n'y a pas un choix très grand, mais on y mange de la cuisine qui a le goût de la cuisine à la maison. Donc, c'est souvent des choses extrêmement simples, mais extrêmement bonnes.
Madame Versini.
Alors là, écoutez, si on arrive à faire manger des bons produits d'une cuisine simple à 11,90 € TTC, appelez-moi, j'irai en courant. J'ai sillonné toute la France et je n'ai jamais trouvé en France depuis des années ce style de restaurant. On ne trouve aujourd'hui en province, sur les routes de France, que des restaurants où l'on fait réchauffer des plats que l'on achète, c'est cette grande épicerie et autres saloperies de métro, où les produits sont de pire en pire, et on vend ça comme étant la blanquette de veau, le civet de ma grand-mère, la tête de veau du grand-père, etc. Ce n'est pas du tout de la cuisine. Plus personne ne l'a fait, la cuisine.
Cela dit, vous dites un menu à 11,90 € TTC, ce qui paraît effectivement pas cher, ce qui représente quand même malgré tout une somme. Imaginons une famille qui va manger dans un restaurant, même avec un menu à ce prix-là, même s'il peut y avoir des menus enfants, ça peut quand même faire une addition importante. Thibaut de Saint-Paul, moi je me disais, le resto populaire, est-ce que finalement ce sont pas ces grandes chaînes, alors qu'ils sont peut-être un petit peu mal vus aussi, mais je sais pas, Flunch, j'ai noté quelques noms pour pas faire trop de pub pour un seul, Courte Paille, Hippopotamus, Pizza Pino, qu'on retrouve d'ailleurs aussi près des...
C'est pas très populaire quand même, hein. Ça coûte cher Hippopotamus.
Populaire en même temps, parce que ça n'est pas aussi... On les trouve aussi souvent d'ailleurs dans les zones industrielles, près des grands multiplexes de cinéma, là où il y a des grands magasins.
Moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement toutes ces chaînes, en fait elles coûtent relativement cher quand même, hein. Il y a une chaîne, je ne vais pas la citer.
Oui, mais j'entendais pas populaire du coup, par son accessibilité, mais plutôt par sa fréquentation.
Exactement. Oui, pardon, j'ai répondu trop vite.
Exactement, et sur la manière dont on va y manger. Je ne vais pas me placer sur le plan des produits ou de l'expérience culinaire qu'elles vont proposer, mais sur la manière dont on va manger, où on va pouvoir se retrouver, partager potentiellement un moment en famille, et où là, on va retrouver ce sens de populaire. Mais effectivement, après, on peut discuter de ce qu'on a dans l'assiette, dans ces chaînes-là. L'autre point qui, dans ce que vous avez dit...
Il y a certaines de ces chaînes, par exemple, qui proposent des frites à volonté. Alors certes, ça n'est pas très, très recommandé sur le plan de la santé, mais il y a quand même un vrai plaisir à manger plein de frites.
Et de manger ensemble. Et un des enjeux de l'alimentation,
aussi,
encore
on mange
en France,
aussi par plaisir, on ne mange pas uniquement pour sa santé, non
oui, autour de l'alimentation. Et moi, ce à quoi me renvoie ce que vous venez de dire, c'est aussi une autre tendance qui apparaît fortement en France, qui est qu'on observe un retour très fort de la gamelle le midi, où... Ça avait quasiment, enfin pas disparu, mais c'était très minoritaire. Et là, dans nos grandes enquêtes, on voit apparaître de plus en plus des gens qui vont cuisiner chez eux et emmener sur leur lieu de travail pour manger, parce que justement, la cantine collective leur convient pas, ils savent pas ce qu'on leur sert. Et donc, on a de plus en plus ça en termes de tendance qu'on va retrouver aussi.
Jacques Durand.
Et ces restaurants qui pratiquent une cuisine de self-service, pour reprendre Flunch, sont intéressants, je pense, parce que si vous allez, ça m'arrive assez souvent, d'aller au Flunch, par exemple, le samedi ou le dimanche, que ce soit à Paris ou à un autre Flunch, je pense, par exemple, à Dijon, moi, je suis impressionné par le nombre de gens qui peuvent s'agréger, qui sont des gens qui, à mon avis, le reste de la semaine, mangent seuls. Souvent des personnes âgées, on croise aussi des étudiants. Et sans qu'on rentre non plus dans... ce ne sont pas des banquets qui vont durer des heures, mais on voit des gens qui arrivent à se parler et où on se dit qu'ils ne sont pas forcément des mêmes horizons.
Pascal Wicks.
J'aurais du mal à rebondir là-dessus. En revanche, si je peux rebondir sur les gamelles ou les lunchbox, effectivement, c'est une grosse... Enfin, ce n'est pas une tendance, en fait, c'est une réalité. Mais du coup, on retrouve... moi, j'ai été salariée j'ai commencé en 1988 ou 9. Et après, j'ai travaillé à la maison. Et quand je suis revenue dans le monde de l'entreprise, c'est la première chose qui m'a frappée. c'est de voir c'est les personnes manger à leur bureau des lunchbox. Donc c'est vraiment une réalité. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a un peu des batailles, donc enfin, pas des batailles, j'exagère, mais des groupes. Il y a le groupe de ceux qui vont manger à la cafétéria. Il y a le groupe de ceux qui vont préférer dépenser le double de la cafétéria pour aller acheter autour du bureau. Et il y a ceux qui vont cuisiner chez eux. Et souvent, c'est assez difficile les gens restent bien dans leur groupe, et ça m'a vraiment frappée il y a 4 ans quand je suis revenue dans le monde des salariés.
Il y a un autre élément de distinction, en tout cas, qui me semble assez important, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, c'est le langage aussi qu'on utilise aujourd'hui pour parler de la nourriture. Alors, je ne sais pas comment on disait « c'est bon » à l'époque où vous teniez la Casa Olympe Versini. Peut-être qu'on disait tout simplement « c'est bon ». Sauf qu'aujourd'hui, manifestement, il faut quand même avoir un vocabulaire un peu plus, un peu plus élaboré, un petit peu comme une époque sur le vin,
oui,
c'est-à-dire c'est long en bouche,
c'est comme
il y a du croquant,
il y a du fondant. Il y a du moelleux, etc.
Quand vous entendez ça, ça vous agace?
Ça me rend dingue.
Pourquoi ça vous rend
dingue? Mais non, mais parce que c'est des mots mis sur des choses, parfois d'une manière logique, et parfois on emploie des mots pour employer des mots et pour dire tiens, il a employé le mot, mais il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est intelligent ce chef, il a employé ces mots. C'est la mode, c'est la tendance. C'est la mode, le vêtement, c'est la même chose. Et la nourriture, c'est pareil. C'est un habit. C'est, comme vous disiez, c'est un habit qui différencie les classes populaires et les classes plus élevées. Donc ces mots-là, ils sonnent bien.
Si je dis que je suis allé manger chez Olympe Versini, que ça manquait un peu de peps, mais que son dessert était, il y avait du craquant et il y avait en même temps du fondant, ça veut dire quand même que j'appartiens à une certaine élite culturelle.
Vous êtes très, très fort, même moi j'aurais pas dit ça, donc.
Tu laisses le craquant ou croquant d'ailleurs?
Croquant.
Je pense que vous pouvez justement faire mieux, parce que vous, à juste titre, hein, l'alimentation, c'est tout le langage qu'on va porter sur les objets, que ce soit l'art, que ce soit la musique, et là l'alimentation. C'est une façon de se distinguer et justement de marquer un statut ou une connaissance présumée de l'objet. Et donc, vous avez sans doute la possibilité d'aller beaucoup plus loin si vous voulez marquer votre positionnement en haut de la hiérarchie sociale en utilisant justement des mots qu'on ne va pas trouver dans les émissions dont on parlait tout à l'heure.
Parce que Louis,
en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est plus sur l'image et l'endroit que sur les mots. Et finalement, souvent, les gens disent ben « voilà ce que j'ai mangé », mais en fait, ils ne mettent pas de mots et ils ne disent même pas ce qu'ils en ont pensé. Donc, c'est là où on est un peu dans le show, puisque voilà, au lieu de montrer son sac à main, on va aller montrer son repas. Mais finalement, c'est rare que les gens disent aient un avis sur ce qu'ils ont mangé.
Donc c'est plutôt l'aspect que va avoir le plat, par exemple, qu'on va prendre en photo, ou le lieu dans lequel on l'a préparé, c'est-à-dire si on a une belle cuisine, des beaux ustensiles, c'est ça qui va distinguer.
Oui, je suis peut-être
plus.
un peu dure, je ne suis pas tellement cynique, mais oui, pour moi c'est ça, et à la limite je préférais que les gens disent voilà, je suis allée acheter un pain à tel endroit, et voilà, quand je l'ai coupé, j'ai bien aimé le bruit qu'il faisait, et les saveurs, etc., plutôt que de dire... de prendre juste le pain en photo et de taguer l'endroit, voilà.
Jackie Durand, vous qui écrivez sur la nourriture, est-ce que justement la question du vocabulaire qu'on utilise, est-ce que d'abord c'est quelque chose que vous voyez évoluer justement?
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que quand j'appelle les chefs pour venir les voir travailler, je dis jamais que je suis critique culinaire, parce que pour moi ça veut rien dire du tout. Je me garderais bien de dire c'est bon, c'est pas bon, parce qu'il y a des choses que j'aime et d'autres choses que j'aime pas. Voilà, déjà première chose. La deuxième chose, je pense que ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est quand les gens donnent à voir et à sentir et à percevoir ce qu'ils ont dans l'assiette. Et ça, si on pouvait convaincre un peu plus, et quelquefois les chefs là-dessus sont un peu timorés parce qu'ils disent oui, alors vous savez, moi j'ai fait cuisine parce que à l'école j'étais pas bon et tout ça, mais je leur dis mais dites les choses avec vos mots à vous. Ne convoquez pas des argumentaires de communicants pour me vendre votre carte. Laissez-moi m'asseoir 4 heures dans votre cuisine, suivre un service, regarder la mise en place, voir comment ça se passe, m'expliquer ce geste, pourquoi vous le faites comme ça, pourquoi vous prenez ce couteau-là plutôt qu'un autre. Soyez simple et concret. Et ça, c'est ce qui manque. Et souvent, par exemple, parce que je pensais à ça tout à l'heure, vous parliez de la prise de photos, mais il y a une chose qui est beaucoup plus éclairante souvent sur comment un plat naît ou qu'est-ce qu'il raconte, c'est quand un chef vous fait un crobar, un petit dessin, il vous dit « Tiens, j'ai mis ça là parce que ça, ça va bien aller avec ça ». Ça dit 10 fois plus de choses, un bout de dessin sur un bout de nappe en papier, qu'une photo quelquefois qui fige les choses et, ma foi, qui est difficilement décryptable.
Olympe Versini.
Écoutez, on se moquait des Japonais qui faisaient des photos il y a 40 ans quand ils venaient dans nos restaurants. On est devenu bien pire. Ce que vous dites, vous avez complètement raison, parce que ça ne dépeint ni le goût. Vous parlez où il n'y a pas, oui. Il n'y a jamais un commentaire sur le goût.
Exactement.
Ou alors on dit un très bon restaurant, c'était ouais. bon.
On dit c'est goûteux.
Ah oui.
Ah, j'avais oublié le c'est goûteux. Oui.
Ah oui, c'est goûteux.
Et on ne fait aucun commentaire. Ouais. On ne fait ni des bons commentaires ni des mauvais commentaires. Et ça, je pense que c'est l'époque qui veut ça. Les gens sont très frileux. Ils ont sans doute aussi l'appréhension de dire des choses. Sans être cultivé, je parle de la question culinaire, sans être suffisamment cultivé, ils ont peur de dire des choses qui ne sont pas ça, donc ils s'abstiennent et ils ne mettent que la photo. C'est vrai qu'aussi, le dessin, parce qu'avant, dans les cuisines, on ne faisait pas de photos, on n'avait pas de tablette, on faisait un dessin pour des petits carnets avec tel croquis pour montrer à la personne, au chef de partie, au second, etc., comment serait dressé le plat, quels seraient les ingrédients utilisés. Et ça, c'était vraiment charmant. Mais ça n'existe plus.
Pascal Wicks ?
Je crois.
Vous vouliez réagir ?
Ouais, non, mais effectivement, mais par contre, j'ai l'impression que je vais être un peu dure, mais l'histoire, est-ce que les gens ont peur de donner leur avis en tant que mangeur, ou est-ce que c'est juste qu'ils veulent juste montrer la photo?
Peut-être montrer, Thibaut et Saint-Paul, qu'ils étaient, par exemple, dans tel ouais. restaurant, ou qu'ils ont réussi tel plat, mais que finalement, c'est plus ce que ça montre, soit de ses capacités, soit de son aisance à aller dans certains lieux, que véritablement le goût de ce qu'on va manger.
C'est ça, les enjeux sont différents. À mes yeux, c'est un enjeu de mise en scène du plat qui montre ce qu'on a mangé. Ça renvoie à l'univers qu'on veut porter, comme on mettrait quelque part une photo de voyage avec un coucher de soleil sur la plage. On est dans ce registre-là, et d'une certaine manière, que ce soit bon ou pas bon, c'est presque secondaire quand on est dans cet aspect de mise en scène. Maintenant, il existe quand même des espaces où on va pouvoir juger. Il y a des applications où on va pouvoir juger les restaurants qui sont notés et où on a des mangeurs, mais comme pour les hôtels, hein, on est dans le même registre, avec, on sait ce que ça veut dire. Donc il y a ce type de pratique qui existe aussi, avec leurs avantages comme leurs inconvénients.
Bah, les uns et les autres, vous allez au restaurant, j'imagine, est-ce qu'il vous arrive justement derrière de noter les plats, les menus que vous avez consommés au Olympe Versini? Non,
jamais.
Vous prenez des photos.
Moi, j'aime ou j'aime pas. Et quand c'est bon, il n'y a rien de meilleur, c'est tout, voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Jacques Durand, pareil ?
Non, moi je fais des petits dessins comme ça, en me disant à la maison, je vais essayer de faire pareil.
Et pour vous, Pascal Wicks ?
En fait, moi je parle que de mes coups de cœur. Et j'exprime mon coup de cœur, voilà, c'est tout.
Thibaut de Saint-Paul ?
Moi aussi, je mets des notes positives quand j'étais dans un restaurant populaire, comme on le disait tout à l'heure, qui m'a bien plu.
Un restaurant populaire, est-ce que c'est pas finalement un restaurant qui n'impressionne pas, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de code particulier à maîtriser, Thibaut de Saint-Paul ?
Il y a sans doute un peu de cet aspect-là, où effectivement, s'il y a distinction au travers de l'alimentation, c'est au travers d'un certain nombre de maîtrises de code, de comment je mange, qu'est-ce que c'est, comment on en parle. Et il y a sans doute cet enjeu de code ou de facilité à s'approprier, à manger sans développer tout un discours, des représentations autour qui sont compliquées et qu'on ne maîtrise pas.
Olympe Versini ?
Il faut vous dire aussi qu'il y a les gens qui ne sont pas cultivés ont toujours peur des choses qui sont au-dessus d'eux, qui les dépassent. Par exemple, vous prenez l'exemple des palaces parisiens. Vous voulez vous laver les mains, vous rentrez dans un palace parisien, vous allez vous laver les mains et vous ressortez. Personne ne fait ça parce que les gens ont peur. Ils vont aller dans un café, on veut dire « je peux me laver les mains ?»« Ah non, 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 ici, si vous ne consommez pas, vous ne pouvez pas vous laver les mains. » C'est en fait l'éducation qui manque aux gens et la peur. Ils appréhendent des lieux parce qu'ils ne le connaissent pas. Et moi, je dis « allez dans les palaces, lavez-vous les mains, prenez un café qui va vous coûter 7 ou 8 ou 10 euros dans un fauteuil extraordinaire.
Et allez manger ensuite dans un
bistrot.
Et ben, je vous propose que ce soit la conclusion de cette discussion. Merci beaucoup à tous les quatre, Olympe Versini, Jackie Durand, Pascal Wix et Thibaut de Saint-Paul. Les ouvrages respectifs des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Il fréquente les palaces régulièrement.
Uniquement pour aller me laver les mains. Moi. Généralement, c'est ce que je fais. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Je n'ai même pas obligé de boire un café. Mais c'est agréable. On peut y lire au chaud. Enfin, les canapés confortables. Bon, plein de conseils. Effectivement, très bon. Nous, on va parler quand même, non pas de gastronomie. Et là, j'essaie d'instaurer une dispute lifestyle, comme on dit maintenant, le week-end. Mais bon, je retenterai ma chance avec la direction un peu plus tard. Là, on va parler de théâtre dans 3 minutes. Et dans Du Grain à Moudre demain, Hervé Gardette.
La Corse avec la visite d'Emmanuel Macron pour 2 jours. La Corse est un territoire d'outre-mer comme les autres. On parlera du statut institutionnel de cette île.
Attention à ce que vous direz. 19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.